Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Après cette spéciale élection municipale française, Géopolitique retrouve sa place pour une édition raccourcie, un seul volet de 20 minutes, au cours duquel nous allons parler d'un autre scrutin présidentiel qui se tiendra le 5 avril dans moins d'une semaine en Afghanistan. Il s'agit d'élire un successeur au président Karzaï au pouvoir depuis 2001 et qui ne peut se représenter, la Constitution le lui interdisant. Regard sur cette élection présidentielle, ses enjeux dans une atmosphère particulièrement tendue avec les États-Unis, alors que le retrait des troupes de la coalition internationale doit se faire d'ici au 31 décembre, dans quelques mois donc. Retrait partiel ou total, la question est posée sur fond de crainte d'une flambée de violence, d'effondrement d'embryons d'État constitués ces dernières années, de fin de la marche du pays vers la démocratie. Regard sur l'Afghanistan, ses 34 millions d'habitants, les enjeux de l'élection présidentielle dans ce pays où les talibans paraissent de plus en plus incontournables. Nos invités, Mariam Abouzaab, sociologue, enseignante à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et vice-président d'Asia Centre, bonjour.
Bonjour.
2014 est donc une année charnière en Afghanistan, marquée à la fois par un changement de président et le retrait des troupes de la coalition internationale. Où en est l'Afghanistan aujourd'hui, à la veille de ce scrutin? Que dire des candidats à la succession d'Hamid Karzaï? Quelles questions se posent à l'Afghanistan après des décennies de guerre, Mariam Abouzaab?
Eh bien, les élections présidentielles qui vont se dérouler le 5 avril semblent un peu mieux préparées que celles de 2009, avec une opposition qui est plus organisée, une population urbaine qui est, comme semble, un peu mieux informée et qui joue le jeu d'une campagne électorale. Et Hamid Karzaï a évidemment beaucoup moins d'influence directe sur le jeu électoral puisqu'il ne peut pas se représenter. Donc même s'il soutient l'un des candidats, il a moins d'influence. Donc on peut espérer que ces élections se dérouleront dans de meilleures conditions que celles de 2009. Bon, les violences sont toujours là. Les talibans ont annoncé qu'ils boycottaient les élections puisqu'ils sont opposés au processus électoral et surtout sous occupation américaine et qu'ils vont donc continuer de mener des actions. Ils ont attaqué par exemple l'immeuble de la commission électorale. Ils commencent à mener des attaques un peu partout pour perturber le processus. Ils annoncent le boycott, mais à la différence de 2009, ils n'ont pas menacé directement les personnes qui iraient voter.
Alors, ce sera important de se poser quelques instants sur la stratégie, justement, des talibans, qui, comme vous venez de le dire, Mariam Abouzaab, ne menace pas directement les personnes allant voter. Quelques mots, Jean-Luc Racine, sur les favoris à cette élection présidentielle. Il y a Zalmay Rasoul, ancien ministre des Affaires étrangères, proche du président Karzaï.
Oui, il est souvent présenté comme, sinon un substitut, mais enfin... un éventuel président qui permettrait à Hamid Karzaï de garder son influence. Je ne sais pas si on peut faire la comparaison qu'on voit quelquefois entre le petit jeu Vladimir Poutine et Medvedev. Ça me paraît aller beaucoup trop loin. Mais enfin, Rasoul n'est évidemment pas sûr de l'emporter. Finalement, on peut penser que la compétition se jouera entre lui... évidemment, Abdullah, qui était arrivé numéro 2, ancien proche du commandant Massoud et qui avait été, comme Rasoul, mais il y a plus longtemps, ministre des Affaires étrangères du président Karzaï. Et puis, sans doute, dans le trio de tête...
l'économiste Ashraf...
Ashraf Ghani Ahmadzai, un ancien de la Banque mondiale, ancien ministre des Finances, si je ne me trompe. Mais ce qui est intéressant dans ces cas de figure, c'est qu'il n'y a pas que les candidats au poste de président. Mmh. Ils sont tous en trio, puisqu'il y a deux vice-présidents. Et là, on entre dans un des paramètres essentiels de la façon dont les choses se préparent. C'est-à-dire que chaque candidat a avec lui, dans son équipe, deux représentants d'autres communautés ou d'autres milieux. Et de ce point de vue-là, l'attelage entre un ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale et Dostum, le général ouzbek connu pour, on va dire, sa poigne, témoigne de tout ce qui se joue dans cette répartition entre Pashtun, non-Pashtun, les sunnites, mais aussi, il faut avoir, si c'est possible, quelqu'un qui soit pas proche des Hazaras chiites. Toute cette construction témoigne bien de ce qui me paraît être l'essentiel, c'est que il y a à la fois cette complexité ethno-linguistique ou religieuse, et quand même, je crois, un sentiment national afghan absolument fondamental. La chose, je crois, mérite d'être notée, parce que face aux hypothèses qui circulent depuis bien avant le début de la campagne électorale, à savoir comment les Pashtuns vont jouer, peut-il y avoir face à l'insurrection talibane un risque de partition Pashtun-Afghan, Pashtun-Pakistanais, en réalité, je pense qu'il y a bien un sentiment national afghan, et la présidentielle est là aussi pour le souligner.
Je poserai la question de savoir si vous confirmez, Mariam Abouzaab. En tout cas, pour ce qui est de la stratégie des talibans, vous l'évoquez à l'instant, ils boycottent l'élection, mais pas de menace. Et puis aussi, ils ne présentent pas de candidat. Ça fait partie de la stratégie politique. Qu'est-ce que l'on peut dire des talibans aujourd'hui et de leur stratégie ? Est-ce qu'on, à terme, on peut penser à un possible retour des talibans ?
Non, on ne peut pas penser à un retour des talibans seuls au pouvoir. Ça, c'est pas quelque chose que les talibans revendiquent. Ce sur lequel il y a consensus, c'est qu'il faut un processus de réconciliation. Les talibans font partie de l'Afghanistan. Ils représentent la sensibilité d'une bonne partie des Afghans ruraux. On ne peut pas les exclure indéfiniment. Et on sait que la solution n'est pas militaire, mais politique. Là, il y a une sorte d'accord là-dessus. Tout ce qui tourne autour de la réconciliation.
Et où est-ce qu'on en est de ce processus de réconciliation, Mariam Abouzaab ?
On en est malheureusement nulle part, parce que il y a eu toutes sortes de négociations. Tout le monde a négocié avec tout le monde, avec des gens plus ou moins représentatifs. On a essayé de susciter des scissions au sein des talibans, où certains acceptaient de discuter. Et tout le processus de Doha, que Hamid Karzai a d'ailleurs complètement fait échouer, puisqu'il s'est senti marginalisé. Donc il faut un processus dans lequel le Pakistan aussi ne se sente pas marginalisé, parce que le Pakistan a quand même une capacité de nuisance assez grande. Ceci dit, le Pakistan a beaucoup moins d'influence sur les talibans que ce que l'on a coutume de dire. Donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est après l'élection, tout dépendra. Si le résultat de l'élection est vu comme légitime, si ça renforce l'institution présidentielle, à ce moment-là, on pourra, entre Afghans, négocier. Mais c'est un processus qui doit absolument être afghan, entre Afghans, et dans lequel les pays voisins ne doivent pas utiliser un pouvoir de nuisance.
Dans ce processus de réconciliation que vous évoquez, ce que l'on sent, c'est un très fort besoin de reconnaissance de la part des talibans, quoi qu'il en soit, Mariam Abouzaab.
Oui, enfin, je dirais peut-être pas cela comme ça. Ils font partie de la société afghane. Ils ont leur place dans l'espace politique afghan, c'est tout. On les a exclus en 2001 à Bonn, ce qui était une grave erreur, à un moment où ils étaient réintégrables. Bon, eh bien maintenant, il faut discuter cela entre Afghans.
Jean-Luc Racine, quel bilan peut-on faire des années Karzai et comment expliquer aujourd'hui la relation extrêmement tendue qu'il entretient avec les États-Unis depuis plusieurs mois ?
Bon, on sait que depuis 2001, il y a un bilan qui n'est pas totalement négatif de ce qu'a été un commencement de reconstruction de l'État afghan, vous l'avez dit tout à l'heure, en guerre depuis des décennies. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont plutôt positifs, mais sur le fond, ce qui était prévu en 2001, quand Karzai est arrivé au pouvoir, puis qu'il a été confirmé ensuite par les urnes, c'était une avancée beaucoup plus nette en termes de reconstruction de l'État, et pas simplement ce qu'on a pu voir. Et là, je dirais, les torts sont partagés. On sait que les grands pays occidentaux avaient chacun une tâche assignée, qui vis-à-vis de la justice, qui vis-à-vis de la police, qui vis-à-vis des institutions civiles, etc. Tout n'a pas été fait, loin de là. Donc, on ne peut pas dire que tout s'est endormi. Et en même temps, beaucoup reste à faire. Ce qui reste à faire, c'est à la fois dans la reconstruction économique, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, l'économie afghane est soutenue à bout de bras, à la fois par l'aide étrangère et par ce qu'on peut appeler l'économie de guerre. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de gens. C'est pas propre à l'Afghanistan, dans tous les pays qui sont dans ce cas de figure, l'économie de guerre, c'est un moteur qui va contre la normalisation. Mais ça pose un problème décisif, c'est que le nouveau président, quel qu'il soit, continuera d'avoir besoin de l'aide étrangère. Donc là, c'est un objet de la négociation. Le deuxième élément, et je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, la réintégration des talibans, très bien, mais sur quelle base politique ? Et ça, c'est le même problème qui se pose aujourd'hui au gouvernement pakistanais qui négocie avec ses propres talibans. Mais est-ce qu'on accepte la constitution ? Est-ce qu'on ne l'accepte pas ? Parmi ce qui a été avancé, il y a aussi évidemment la question du statut des femmes qui se pose. Si les talibans sont réintégrés d'une façon ou d'une autre, quelle sera leur position là-dessus ? On entend dire qu'ils ont tiré quelques leçons des excès passés. Est-ce vrai ? L'avenir le dira peut-être.
Alors, l'aide étrangère, l'aide financière étrangère indispensable à l'Afghanistan, je l'évoquais en introduction, Mariam Abou Zahab, au 31 décembre, les soldats de la force internationale, il est prévu qu'ils aient quitté l'Afghanistan. Se pose aujourd'hui la question de savoir si tout le monde doit partir ou des soldats doivent rester. Quels enjeux autour de cette question ?
Il est évident que l'option zéro, qui avait été brandie un peu comme une menace par Barack Obama, ne sera pas retenue par les Américains.
Option zéro soldat.
Option zéro soldat, ce qui voulait dire aussi qu'il n'y avait plus d'aide, ni militaire ni civile, à l'Afghanistan. Et ça, c'était tout à fait exclu. C'était juste une menace pour faire pression sur Hamid Karzai et pour qu'il signe l'accord de sécurité. Tous les candidats aux élections sont tous d'accord pour signer cet accord bilatéral de sécurité avec les États-Unis, parce que c'est une question de survie. Bien sûr, ça suppose qu'il restera un certain nombre de soldats américains. Combien ? Bon, ça peut aller jusqu'à 10 000. Il y aura des bases américaines en Afghanistan, parce que les États-Unis ont des intérêts stratégiques dans la région, qu'ils ne vont pas abandonner. Et ça veut dire que l'Afghanistan continuera à recevoir de l'aide à la fois militaire et civile. Et c'est une simple question de survie. L'Afghanistan est entièrement dépendant de l'aide étrangère. Et ça, c'est pas nouveau. C'est comme ça depuis le 19e siècle. 60% du budget, de la partie dépenses du budget afghan, dépend de l'aide étrangère actuellement. C'est-à-dire que c'est non seulement un problème pour payer la police et l'armée, mais c'est également tous les fonctionnaires civils. C'est-à-dire que sans cette aide, l'État afghan s'effondre immédiatement.
Il n'y a pas de prélèvement de l'impôt, Mariam Abou Zahab ? Comment se fait-il que l'État afghan ne fonctionne que sur l'aide étrangère depuis des décennies ?
Eh bien, parce que il n'y a jamais eu moyen de prélever l'impôt. C'est une constante en Afghanistan, et parce que n'oubliez pas que l'Afghanistan est le troisième pays le plus corrompu au monde après la Corée du Nord et la Somalie. Donc vous voyez bien la situation dans laquelle on est. On ne paye pas d'impôt, mais parce que l'État n'a pas la possibilité de prélever l'impôt. Bon, il y a des raisons historiques à ça en Afghanistan. Donc, on dépend de l'aide étrangère. L'Afghanistan était un État rentier dans les années 70. Et c'est encore le cas maintenant. Rien n'a changé. Il était aussi un État rentier sous les talibans, d'une autre façon. C'est une continuité.
La rente, c'est le trafic de drogue.
Ça a pu être le trafic de drogue à un moment, oui. Ça, à d'autres moments, ce sont d'autres produits. Maintenant, c'est l'aide étrangère. Comme c'était déjà le cas dans les années 60 et 70.
Jean-Luc Racine, un commentaire ?
Oui, je pense que la question de la drogue est quand même importante, puisqu'on parlait tout à l'heure du bilan des dernières années. Sur le front de la lutte contre la drogue, c'est un échec. Il y a eu des moments où on a pu penser que des progrès étaient possibles, mais aujourd'hui, non. C'est un échec, et on sait très bien que quand vous avez des centaines de milliers de petits paysans qui vivent de la culture du pavot, c'est bien de prendre des décisions contre la culture du pavot, mais encore faut-il trouver les moyens d'avoir des cultures de remplacement. Ça s'est fait dans d'autres parties du monde, mais c'est une œuvre de longue haleine. Et il est évidemment complètement difficile d'avancer dans cette voie quand il y a toute une chaîne de gens, et pas seulement des talibans, qui bénéficient de cette culture. Donc là, on a un gros point d'interrogation aussi sur l'avenir, ce qui veut dire que on va changer de président, mais évidemment, les questions structurelles, les défis permanents vont rester.
Alors, Washington se félicite d'avoir éliminé Ben Laden, l'instigateur des attaques du 11 septembre 2001, et d'avoir annihilé les bases arrières de son réseau Al-Qaïda en Afghanistan. Est-ce que la menace terroriste a disparu en Afghanistan, Mariam Abou Zahab ?
Elle s'est déplacée au Pakistan, elle est au Yémen, elle est dans le Sahel, elle s'est déplacée. Elle est en Syrie, surtout maintenant. Donc en Afghanistan, les Occidentaux et les Américains en premier ont coutume de dire que le problème est plus ou moins réglé en Afghanistan. Bon, ceci dit, il y aura toujours des tirs de drones, que ce soit sur la zone frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et il y a quand même aussi un risque, après le retrait des troupes américaines, que les talibans pakistanais Libanais trouvent un sanctuaire, ils l'ont déjà trouvé dans certaines régions de l'Afghanistan, trouvent un sanctuaire en Afghanistan et que donc ça relance évidemment des violences dans la région. Donc le problème n'est pas entièrement réglé.
On ne vous sent pas très optimiste sur l'Afghanistan, ni l'un ni l'autre, Jean-Luc Racine, Mariam Abouzaab. Quelles sont les priorités, d'après vous, pour le successeur d'Hamid Karzai, Jean-Luc Racine ?
Le nouvel élu bénéficiera normalement, ça a été dit, les conditions du scrutin s'annoncent quand même moins tortueuses que le scrutin de 2009. Enfin, il n'y aura pas d'état de grâce, de toute façon. Ce qui va compter, c'est à la fois la capacité ou non de définir une ligne claire de ce que peuvent être les bases d'un dialogue avec les talibans. Si les tentatives d'avoir une scission ou que la fatigue des combats, c'est le vieux mythe, la fatigue des combats, une partie des talibans sera prête à rejoindre les cercles officiels du pouvoir. Après tout, il y a d'anciens talibans qui se sont fait élire à l'Assemblée en 2004. Donc, pourquoi pas ? Mais le cœur du problème va rester. Et sur le deuxième volet de la grande incertitude, oui, bien sûr, l'aide étrangère va forcément être prolongée, en dépit des hauts et des bas de la relation entre Kaboul et Washington, et au-delà de Washington, bien sûr. Mais fondamentalement, on risque de rester dans cette ambiguïté face à l'extrême difficulté qu'il va y avoir. Déjà, c'est le vieux problème, hein, quand Karzai avait été défini comme étant le président ou le maire de Kaboul, jusqu'à quel point l'administration présidentielle est à même d'étendre sur la quasi-totalité du territoire la volonté de l'État. Et cette question-là, est-ce qu'on peut dire qu'Abdullah Abdullah est mieux équipé que les autres ? Point d'interrogation, c'est pas du tout clair. La vraie dualité, ça va être ça. Ça va être maintenir un soutien étranger, mais qui laisse quand même des marges de manœuvre au nouveau pouvoir, et faire en sorte que ce nouveau pouvoir réussisse dans la durée. Et ça sera sûrement pas un seul mandat qui permettra de se sortir de cette nasse. Dans la durée, les paramètres. Moi, j'aime pas trop le terme de réconciliation nationale, parce que je vois pas bien sur quelle base idéologique ça peut être fait. Mais les enjeux sont tout à fait ouverts. Mais la tâche sera rude.
Mariam Abouzaab, la tâche sera rude ?
La tâche sera très rude. Bon, l'élection va peut-être permettre de sortir de la crise, si elle se passe pas trop mal et que le gouvernement qui en sort, le président qui en sort est vu comme légitime. Alors, après, il faut voir à la fin du premier tour ce qui se passera et si les perdants seront de bons perdants, parce que là, il y a un risque, évidemment, de faire appel aux sentiments ethniques ou régionaux et donc de relancer des violences. Et c'est ce que craignent beaucoup d'Afghans. Alors, on sait très bien que bon, il y aura de la fraude électorale, ça c'est inévitable, on peut espérer qu'il y en aura moins qu'en 2009, sinon le processus sera pas du tout légitime et c'est sera très mauvais pour les institutions. Mais après, il n'est pas certain non plus que les résultats reflèteront véritablement le vote que les Afghans ont fait ou qu'ils ont souhaité faire. Donc là, après, il faut voir les arrangements. Alors, tout cela, et on a beaucoup insisté sur tout ce qui est ethnique, parce que tous les candidats d'ailleurs avaient un vice-président Hazara. Et là, c'est un facteur qui est très important parce que tout le monde veut avoir les voix Hazara. Les Hazara votent beaucoup plus que d'autres. Ils se mobilisent énormément parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont à perdre. Ils savent ce qu'ils ont gagné depuis 2001 et ce qu'ils ont à perdre. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est quand même un point de tension très importante.
L'Afghanistan, un dossier que nous suivrons de près ces prochains jours et ces prochaines semaines. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Mariam Abouzaab, sociologue et enseignante à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et vice-président d'Asia Centre. Géopolitique était signé Marie-France Chatin avec l'appui de la documentation et de Nathalie Laporte pour la réalisation et la technique. La semaine prochaine, Géopolitique sera à Grenoble, où se tient, comme chaque année, depuis 5 ans, le Festival de Géopolitique. Très bonne semaine d'ici là.